Actu SF, les podcasts.
Bonjour pour cette deuxième journée des Imaginales, et c'est la première des deux grandes conférences solo avec Robin Hobb. C'est une exception. C'est la première fois en 17 ans que nous consacrons, lors des mêmes Imaginales, deux cafés littéraires en solo avec la même auteur, en l'occurrence, Robin Hobb. Un premier sur un petit peu une rétrospective de son œuvre, des débuts jusqu'à ses derniers volumes. Et puis un café un peu particulier auquel je tenais. J'en profite pour rendre hommage à Lionel Davous, d'abord pour sa traduction toujours dynamique et excellente, mais aussi pour le fait que c'est lui qui m'a suggéré le second café. Vous retrouverez dimanche Robin Hobb. Ça sera un regard sur son univers, c'est-à-dire évidemment sur le premier tome, L'Assassin Royal, pour cet univers des six duchés. C'est-à-dire que vous savez que maintenant, de temps en temps, on consacre un auteur à un univers. Et on s'attarde à l'univers d'un auteur quand il a vraiment un univers spécifique. Voilà, vous verrez ça dimanche, je vous recommande. Ça ne sera pas moi, mais ça sera un autre intervenant qui vous fera ça avec passion. Voilà, ayant présenté, c'était normal qu'on fasse deux cafés, parce que d'abord le public est nombreux et passionné, parce que c'est une des plus grandes auteurs de fantasy, parce que c'est une amie des Imaginales, et parce que c'est la très grande et très simple Robin Hobb, on l'applaudit bien fort. Comment commencer l'histoire? Comment commencer l'Assassin Royal, sinon par les débuts? Et ça tombe bien, le premier chapitre s'appelle l'histoire des origines. L'histoire des six duchés se confond nécessairement avec celle de leur famille régnante, les Loinvoyants. Un récit complet nous ramènerait à une époque bien antérieure à la fondation du premier duché, et si leur nom était resté dans les mémoires, nous décrirait les Outriliens, venus de la mer assaillant une côte plus clémente et plus tempérée que les grèves glacées des îles d'outre-mer. Mais nous ignorons les noms de ces lointains ancêtres. Quant au premier véritable roi, il ne nous est parvenu guère plus que son nom et quelques légendes extravagantes. Il se nommait Preneur, tout simplement, et c'est peut-être avec ce patronyme qu'est née la tradition d'octroyer aux filles et aux fils de sa lignée des noms qui devaient modeler leur vie et leur être. La croyance populaire prétend qu'on usait de magie pour en imprégner définitivement le nouveau-né, et que le rejeton royal était incapable de trahir les vertus dont il portait le nom. Trempé dans la flamme, plongé dans l'eau salée, offert au vent de l'air, c'est ainsi que les enfants élus se voyaient imposer ces qualités. Du moins, le raconte-t-on. Une belle légende, et peut-être un tel rituel a-t-il existé autrefois, mais l'histoire nous montre qu'il n'a pas toujours suffi à lier un enfant à la vertu dont il était baptisé. Ma plume hésite, puis échappe à ma main noueuse, laissant une bavure d'encre sur le papier de Guérépu. Encore une feuille de ce fin matériau gâché dans une entreprise que je soupçonne fort d'être vaine. Je me demande si je puis écrire cette histoire ou si à chaque page transparaîtra un peu de cette amertume que je croyais éteinte depuis longtemps. Je m'imaginais guéri de tout dépit, mais quand je pose ma plume sur le papier, les blessures d'enfance saignent au rythme de l'écoulement de l'encre née de la mer, et je finis par voir une plus rouge vif sous chaque caractère soyeusement moulé. Guérépu et Patience manifestaient l'un comme l'autre un tel enthousiasme chaque fois que l'on parlait d'écrire l'histoire des six duchés que j'ai fini par me persuader que l'effort en valait la peine. Je me suis convaincu que cet exercice détournerait mes pensées de mes souffrances et m'aiderait à passer le temps. Mais chaque événement historique que j'étudie ne fait que réveiller en moi les ombres de la solitude et du regret. Je crains de devoir abandonner cette tâche si je ne puis accepter de revenir sur tout ce qui m'a fait tel que je suis. Aussi remets-je et remets-je encore sur le métier mon ouvrage pour m'apercevoir sans cesse que je décris mes origines plutôt que celles de notre pays. Je ne sais même pas à qui je m'efforce d'expliquer qui je suis. Toute mon existence est une toile tissée de secrets, des secrets qu'aujourd'hui encore il n'est pas sans risque de divulguer. Dois-je les coucher sur le papier pour n'en tirer au bout du compte que flamme et cendre? Peut-être. On rentre Robin Hobb dans l'Assassin Royal par une voix, par l'écriture de souvenirs, par le recul du temps, le temps qui est passé, et pas par une scène d'action. On rentre avec lenteur et complexité et subtilité dans cette immense saga. Pourquoi avez-vous fait ce choix, Robinob?
I think it is in Alice in Wonderland that the advice given to Alice is begin at the beginning and go on until you reach the end. So for me, in order for the reader and for myself to understand Fitz, we really need to begin at this moment in his life, because this is the moment that will shape everything that comes afterward. If I had begun with him being at the first time of his apprenticeship, if you do not have this, all that came before that moment, it loses a lot of its significance.
Il me semble que c'est dans Alice au Pays des Merveilles où il y a un conseil qui est dit: commence au commencement, continue et arrête-toi à la fin. Pour moi, pour le lecteur, pour qu'on puisse comprendre Fitz, il me semblait nécessaire de commencer par là, à ce moment-là de sa vie, parce que c'est le moment qui va façonner tout ce qui va arriver ensuite. Si j'avais commencé, par exemple, au moment où il commence à être apprenti assassin, si on n'avait pas les clés de ce qui s'est passé avant, je pense que cet événement aurait perdu beaucoup de sens.
Autre petit extrait, un petit peu plus loin dans l'histoire. Et mon vrai travail, écouter et apprendre. Subtil et moi trouvons les pirates rouges trop bien renseignés sur nos stratégies et nos forces. Non sans rechigner, Kelvar a récemment fourni des fonds pour garnir la tour de l'île du Guet de façon convenable. Par deux fois, il a négligé son devoir et par deux fois, les villages du duché de Haut-Fond ont payé pour sa négligence. A-t-il franchi la limite entre l'incurie et la trahison? Kelvar complote-t-il avec l'ennemi pour son propre profit? Nous voulons que tu fouines un peu pour voir quelle lièvre tu peux lever. Si tu ne décèles qu'innocence, ou si tu n'as que de fortes présomptions, reviens nous en faire part. Mais si tu découvres une trahison, et qu'il n'y ait pas de doute possible, plus tôt nous en serons débarrassés, mieux cela vaudra. Et les moyens? J'ai du mal à me reconnaître dans ce ton prosaïque retenu. J'ai préparé une poudre indécelable dans la nourriture et invisible dans le vin. Pour son emploi, nous nous fions à ta discrétion et à ton ingéniosité. Il ôta le couvercle d'un plat en terre cuite. Je vis un paquet enveloppé de papier fin, plus mince et fin, et plus fin que tout ce que m'avait montré Guérépu. Bizarrement, ma première pensée fut que mon maître scribe serait ravi de travailler qu'un tel papier. Le paquet contenait une poudre blanche infiniment ténue. Elle s'accrochait au papier et flottait dans l'air. Ombre s'appliqua un tissu sur le nez et la bouche pour en verser une mesure soigneusement dosée dans une papillote en papier huilé qu'il me tendit ensuite. Je recueillis la mort dans le creux de ma main. Et quel en est l'effet? Cette poudre n'agit pas trop vite. Il ne tombera pas reine mort à table, si c'est ce que tu veux savoir. Mais s'il vide sa coupe, il se sentira mal. Connaissant Kelvar, je pense qu'il ira se coucher, le ventre gargouillant, et il ne se réveillera pas au matin. Je glissai la papillote au fond de ma poche. Vérité est-il au courant? Ombre réfléchit. Vérité porte bien son nom. Il serait incapable de s'asseoir sans se trahir à la table d'un homme qu'il va empoisonner. Non, dans cette mission, le secret nous servira davantage que la vérité. Il planta ses yeux dans les miens. Tu agiras seul, sans autre avis que le tien. Je vois. Je changeai de position sur mon haut tabouret de bois. Humbre, oui. Ça a été pareil pour vous, votre première fois? Il baissa les yeux sur ses mains et promena un moment le bout de ses doigts sur les cicatrices d'un rouge enflammé qui parsemait le dos de sa main gauche. Le silence s'éternisait, mais j'attendis patiemment. « J'avais un an de plus que toi, » dit-il enfin, « et je devais simplement exécuter un ordre. Je n'avais rien à décider. Ça te suffit ?» Je m'en sentis soudain gêné, sans savoir pourquoi. « Je crois, » bredouillai-je. « Tant mieux. Je sais que tu n'y voyais pas malice, mon garçon, mais les hommes ne parlent pas des heures qu'ils passent au milieu des oreillers avec une dame, et les assassins ne discutent pas de leur travail. Même pas de professeur à élève ? » Humbre détourna le regard vers un coin obscur près du plafond. « Non. » Il ajouta au bout d'un moment, « D'ici 2 semaines, tu comprendras peut-être pourquoi. et nous ne revînmes jamais sur le sujet. D'après mes calculs, j'avais 13 ans. Voilà, une scène paisible, un dialogue quasiment serein, et pourtant, on sent l'horreur, la violence et l'atrocité de ce qu'on demande à un jeune homme de 13 ans dans le filigrane de ce qui paraît extrêmement paisible. Est-ce que c'est un effet, Robin Hobb, que vous avez voulu ? Pas d'effet sanglant, pas de grandes déclamations, pas de cris, mais l'horreur au travers d'une discussion apparemment paisible ou relativement paisible.
I think the scene was to say to the reader what he is going to do, what he has been trained to do, is a very real thing. It's not gallant. It's not glorious. It will be a workaday task, and he has been given the additional burden of deciding if and when to perform the task. But it is a task. It is what we do, and I think the whole concept of I was just following orders is one of the most chilling things that we can hear from anyone.
Je crois que dans cette scène, ce que j'espérais dire au lecteur, c'est que ce que Fitz a été entraîné à faire, ce qu'il va faire, c'est quelque chose de très réel. C'est pas galant, c'est pas beau, c'est pas glorieux, mais c'est un boulot, c'est une tâche. Et en plus, il a le fardeau de devoir savoir s'il doit le faire et quand il doit le faire. Mais c'est juste une tâche, c'est ce qu'on fait dans ce métier. Et je pense que toute l'idée, la réplique « Je suivais juste les ordres », c'est une des choses les plus glaçantes qu'on peut entendre, et je pense que c'était ce que j'essayais de dire à travers cette scène.
C'est peut-être la première interrogation qu'on peut avoir sur votre roman. C'est un roman d'abord d'aventure, un roman passionnant. C'est un roman aussi où, sans jamais être didactique, sans jamais faire de prêchi-prêcha, vous posez d'énormes questions sur les choix de vie, sur l'obéissance à l'ordre, sur l'acceptation des choses ou leur refus, et sur la culpabilité. Où tirez-vous ce background ? Comment avez-vous envisagé, quand vous avez construit, imaginé votre saga, de traiter à la fois d'un roman d'aventure, de raconter une histoire, de nous faire partager des personnages, et néanmoins avoir une trame qui balaye l'ensemble des sujets importants dans la vie d'un être humain ou d'une société, ou peut-être finalement, je vais aller jusque-là, vous inscrire dans la logique shakespearienne.
I think that as a writer, I have many, many questions, and when I write, I am kind of looking for answers for myself. Not that I have answers, but I try out answers. Within this story, I have read so many stories in fantasy in which the hero is a thief or a prostitute or an assassin, and somehow there is a glamour attached to what is actually very harsh work. So I wanted to look at that and say, to make it more of what it would actually be, the workaday business of doing death.
En tant qu'auteur, je pense qu'en fait j'ai énormément de questions, et quand j'écris, je cherche les réponses avant tout pour moi, non pas que je les ai, mais j'en essaye et j'expérimente avec. Et j'avais lu en fantasy, j'avais lu tellement de récits où les personnages principaux sont des voleurs, des prostituées, des assassins, et il y a un petit côté glorieux fréquemment qui est transmis dans ces récits, alors que c'est un travail extrêmement dur, extrêmement rude. Et quand je l'ai envisagé ce genre de choses, j'avais envie de l'attaquer sous l'angle, quelque part du simple travail, de la tâche à la fois terrible, mais simplement qui est le simple business de distribuer la mort.
Autre petit extrait. Vase B. Entre être roi servant ou reine servante, c'est savoir parfaitement faire la part de la responsabilité et de l'autorité. Cette position, aurait dit-on, était créée pour satisfaire la soif de pouvoir d'un héritier au trône, tout en lui apprenant à exercer l'autorité. L'aîné de la famille royale accède à ce statut à son 16e anniversaire et, de ce jour, le roi servant ou la reine servante endosse une pleine part de responsabilité dans le gouvernement des 6 duchés. En règle générale, il se voit confier des devoirs dont le monarque régnant s'occupe le moins et qui peuvent grandement varier d'un souverain à l'autre. Sous le roi subtil, Chevalerie fut le premier roi servant. Son père lui délégua tout ce qui touchait aux frontières, à lui les guerres, les négociations, la diplomatie, l'inconfort des longs voyages et la vie pénible des campagnes militaires. Quand Chevalerie se désista et que Vérité devint roi servant, il hérita de toutes les incertitudes de la guerre contre les Outriliens et des tensions que cette situation créait entre les duchés de l'intérieur et ceux des côtes. Et pour corser sa tâche déjà difficile, le roi pouvait à tout moment annuler ses décisions pour les remplacer par les siennes propres. Il dut ainsi souvent résoudre des situations qui n'étaient pas de son fait, avec des armes qu'il n'avait pas choisies. Encore moins confortable, peut-être, était la position de la reine servante Kétriken. Ses manières de montagnarde les désignaient comme étrangères à la cour des 6 duchés. En des temps moins troublés, peut-être eût-elle été accueillie avec davantage de tolérance, mais l'agitation générale du royaume mettait la cour de Castelcerf en effervescence. Les navires rouges venus des îles d'outre-mer dévastaient nos côtes comme jamais depuis des générations et détruisaient plus qu'ils ne pillaient. Le premier hiver de Kétriken en tant que reine servante vit aussi la première attaque hivernale que nous eussions connue. La menace constante des raids et le tourment lancinant de la présence des forts guisés ébranlait les 6 duchés jusqu'aux fondations. La confiance du peuple dans la monarchie était au plus bas et Kétriken occupait la position peu enviable d'être la reine étrangère d'un roi servant que nul n'admirait. Une femme étrangère dans une période difficile essaie de se faire accepter par un peuple qui n'est pas le sien. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi s'interroger sur la situation de l'étranger dans un pays que de gré ou de force, il est amené à adopter? Robin Hobb?
Some of that scene is about that chivalry is in training and has to perform his duties in much the same way that Fitz does. That you may not like it, you may not have control over what you are expected to do, and you still have to find a way to do it. So this marriage is a political alliance. It is not Verity's choice. It isn't really Kétriken's choice. She comes to the 6 duchies with a very different philosophy as to what a queen or a king is. She sees herself as a sacrifice, as somebody who must put the good of her people far ahead of any of her own concerns. But the difference in philosophy, the difference in appearance, she is tall and strong and blonde among a people where they are darker and the women are shorter and rounder. And so she is a stranger in a strange land in every possible way, making the best of her situation. I was not really looking at any larger question than Kétriken and Verity are both in very difficult situations and they have to make the best of it.
Je pense qu'une partie de cette scène, quand on parle de chevalerie, c'est que quand il est roi servant, en fait, il se trouve dans une situation qui est assez parallèle à celle que Fitz, c'est-à-dire qu'il doit remplir et accomplir ce devoir un peu de la même manière que lui. Ça ne lui plaît peut-être pas, les moyens ne lui conviennent peut-être pas, mais il faut quand même qu'il trouve un moyen. Alors concernant le mariage de Vérité, c'est principalement une alliance politique, et en fait c'est beaucoup le choix de Kétriken et pas de Vérité. Elle vient aussi du Ché avec une philosophie extrêmement différente, elle se considère comme le sacrifice de son peuple, et donc elle se considère de la même manière parmi les six duchés, c'est-à-dire qu'elle place le bien de son peuple bien au-delà de ses propres préoccupations. C'est une différence de philosophie, elle a également une apparence très différente puisqu'elle est grande, elle est robuste, elle est blonde dans un pays où les gens sont plutôt de complexion plus sombre, où les femmes sont plus petites, un peu plus rondes, etc. Donc elle est en terre étrangère et en terre étrange à tous les aspects et vraiment à tous les possibles niveaux. Je ne pense pas que je cherchais vraiment à examiner un thème plus vaste, mais simplement Vérité et Kétriken sont vraiment tous les deux dans une situation extrêmement difficile et il faut qu'ils arrivent à en tirer le meilleur possible.
Après ce petit extrait qui était, j'ai coupé une partie du passage qui situe des problèmes politiques, des alliances, tout de suite on passe à une scène plus intime entre le fou et l'autre héros, évidemment, que vous allez reconnaître. Je m'éveillais en sentant qu'on me touchait le front. Je détournais la tête avec un grognement agacé. Je me débattis pour m'extirper de mes couvertures dans lesquelles je m'étais emmêlé, puis je me redressais pour voir qui avait osé me déranger. L'air inquiet, le fou du roi subtil était assis sur une chaise près de mon lit. Je le dévisageais ahuri, il s'écarta de moi, un sentiment de malaise m'envahit. Le fou aurait dû se trouver à Castelcerf avec le roi, de nombreux miles à bien des jours de voyage de moi. Jamais je ne l'avais vu s'éloigner du roi plus de quelques heures, sinon pour dormir. Sa présence ne présageait rien de bon. C'était mon ami, autant que sa nature singulière lui permit de se lier, mais il ne venait jamais à moi sans raison, et ses raisons étaient rarement futiles ou agréables. Voilà, tout est dit en quelques lignes. C'est un ami, et en général, sa visite annonce de mauvaises nouvelles. Là aussi, quelle est la place de l'amitié dans le roman, dans un monde dur, avec des personnages durs qui font des sales boulots? Et où néanmoins, dans ce monde où tout le monde se méfie de tout le monde, quelques personnages arrivent à tisser des liens de confiance. Est-ce que dans un monde paranoïaque, le monde du pouvoir, la confiance est possible, Robin Hobb, en tout cas dans vos romans?
I think that what happens in this story is that despite everything, Fitz and the Fool become friends. The Fool always has his own agenda, which he is attempting to move forward. And I think he is as surprised and a bit unbalanced by becoming friends with Fitz as Fitz is with having this very peculiar person seeking him out with first unwanted advice and then essential advice and then finally with friendship. So I think it's just the story in some ways of a very unlikely friendship that goes on to affect many, many other events in their lives. If there had been no caring between them for what became of the other, it would be a very different story.
Je pense que dans le fond en fait, de cette histoire, c'est que malgré tous les événements, Fitz et le fou réussissent à devenir amis. Et je pense que c'était aussi la question de traiter cette possibilité d'amitié dans ce monde un peu dur. Le fou a toujours ses propres projets qu'il essaye d'avancer et de faire progresser. Et en fait, en utilisant Fitz en général, il est aussi étonné finalement et déstabilisé de se retrouver ami avec Fitz, que Fitz l'aide à voir cette personne un peu étrange qui vient lui proposer, qui vient lui donner des conseils d'abord dont il veut pas, ensuite dont il va se rendre compte qu'ils sont nécessaires, et finalement il va aussi tisser un lien d'amitié avec lui. Donc je pense que c'est aussi l'histoire d'une amitié extrêmement improbable qui va, entre ces deux personnes, qui va influencer énormément beaucoup, beaucoup d'autres événements dans leur vie. Et je pense que s'il n'y avait pas d'affection sincère entre les deux, cette histoire aurait été très différente.
On va abandonner l'assassin royal et tous ces personnages. Certains d'entre vous les connaissent déjà. En fait, évidemment, ce que j'envie, c'est ceux qui vont les découvrir encore. Puisque c'est, comme j'ai dit dès le début, mais vous le savez tous au moins de réputation, que c'est une des plus belles sagas de la fantasy moderne. On va partir ailleurs, brièvement, parce qu'on n'aura pas trop de 50 minutes pour faire le tour d'une telle œuvre. L'Arche des Ombres, on part sur la mer. C'est une parenthèse, c'est une respiration. On va s'éloigner de la Terre. Pourquoi, Robin Hobb, avez-vous envie d'explorer ce chemin de traverse, qui n'est pas un chemin de traverse, mais qui est un chemin maritime? En quoi la mer vous a-t-elle attiré? Et en quoi ce petit détour par rapport à l'ensemble de la saga était-il pour vous important?
Well, first, there is the chronological necessity for the reader to know what happens in Bingtown and Jamalia and the Rainwilds, because many of the events that Fitz has set into motion will affect them, and in turn, the things that happen there are going to strongly affect what goes on in the Six Duchies. Just as events in the United States are going to ultimately affect events in France. If you tried to write a world history and it is only the history of your country, many things become, you cannot understand them. So it was a necessary chapter for me to write. I forgot the second part of the question. why the sea? My husband, of course, is maritime. We have a lot of nautical memorabilia around the house. There are a lot of sea stories from him, from his father, from his grandfather, from his friends. Many stories that are just too good to not tell in some form or another. Plus, the life cycle of a creature in this story demands the ocean. Only the ocean could sustain it. So we have to go to Bingtown and to Jamalia and ultimately to the Rainwilds for all of this to begin to make sense. Trying to do this with no spoilers is really hard.
Tout d'abord, eh bien, c'était une nécessité chronologique de savoir ce qui se passe à Terrillville, à Jamaïlia, dans le désert des pluies, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements que Fitz met en mouvement dans l'Assassin Royal qui vont affecter ce qui se passe plus au sud, donc dans cette région-là, et ce qui va se passer ensuite dans ces événements-là vont à nouveau avoir une influence plus au nord dans les Six Duchés. De la même manière que ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, a une répercussion en France. Et je pense que quand on essaie d'écrire l'histoire d'un monde, ben on ne peut pas juste écrire et comprendre cette histoire si on n'écrit que sur son propre pays, par exemple. Donc c'était un chapitre nécessaire pour moi qu'il fallait que j'écrive. Pourquoi la mer ? Bien, mon mari mène une vie maritime. Nous avons beaucoup de bibelots et d'objets d'origine nautique chez nous. Et donc nous avons évidemment beaucoup d'histoires qui me viennent de lui, qui viennent de son père, qui viennent de son grand-père, qui viennent de ses amis. Et ces histoires sont tellement bonnes que ce serait dommage de ne pas les écrire ou les relater sous une forme ou une autre. Il y a aussi autre chose, c'est que le cycle de vie d'autres créatures dans les aventuriers de la mer nécessite l'océan. Donc c'est pour ça qu'il fallait descendre à Terrillville, à Jamaïlia et dans le désert des pluies pour que ces événements prennent leur sens.
Un tout petit extrait. C'est quoi ce que vous allez réussir à obtenir? Kenneth faillit céder à la tentation de tout révéler au marin, mais non. Il avait prévu son plan avec trop de soin, il l'avait trop souvent répété mentalement. Il attendrait que le Marietta soit en route et que Gankis ait le temps de fournir à l'équipage sa version des événements de l'île. Cela ne devrait pas prendre longtemps, le vieux matelot était bavard et après leur absence, les hommes seraient dévorés de curiosité sur leur visite dans l'île. Une fois qu'ils auraient le vent dans les voiles et qu'ils seraient bien en chemin pour partage, Kenneth ferait appeler l'équipage sur le pont. Emporté par son imagination, il se voyait le visage baigné de lune tandis qu'il s'adressait aux hommes réunis en dessous de lui dans le passavant. Ses yeux pâles s'allumaient à l'évocation de cette scène. Ils traversèrent la plage beaucoup plus vite que lorsqu'ils y cherchaient des trésors, et peu de temps après, ils escaladaient la sente escarpée qui menait à l'intérieur boisé de l'île. Kenneth se gardait bien de manifester devant Gankis l'inquiétude que lui inspirait le Marietta. Les marées montaient et descendaient dans la baie avec une amplitude qui ne devait rien aux phases de la lune. Un navire qu'on pensait ancré en sécurité dans la baie pouvait soudain se retrouver raclé des écueils qui n'étaient pas là lors de la précédente marée basse. Kenneth ne voulait pas courir de risque avec son Marietta. Le bateau aurait laissé la terre loin derrière lui, bien avant que la marée de cette baie maléfique pût l'échouer. On va continuer à avancer avec la dernière série, Le Fou et l'Assassin. Mais avant de vous lire un petit extrait du Fou et l'Assassin et de continuer à interroger Robin Hobb, je voudrais évoquer brièvement la Cité des Anciens. La Cité des Anciens, qui m'a étonné quand je suis rentré dedans par la lenteur du début du premier volume et qui provoque ensuite chez le lecteur un effet quasiment hypnotique. Et l'étrangeté de découvrir une de ces créatures les plus puissantes de l'imaginaire de la fantaisie comme une race quasi éteinte, souffroteuse, chétive, en grande difficulté, et au lieu d'avoir peur de ces dragons, dans les cités des anciens, on se prend presque à vouloir les protéger comme un petit chat qui aurait été abandonné, mal nourri, et qui quelque part ne serait pas tout à fait un animal au meilleur de sa forme. C'est volontaire d'avoir pris à rebours cette image des dragons dans les cités des anciens, Robin Hobb ?
I like my magic to have a strong basis in biology in a very strange way. So, this is hard to do with no spoilers. The creatures when we start speaking about the dragons in the Rainwild Chronicles, they have had a very bad start to their life due to events that you would learn about in the ship's books, the live ship traders. They're not nice. They're but you could feel a sense of duty towards them. For the youngsters who are recruited to get them out of town, it's a possible escape for them as well. It is, I don't know if I could do this without spoilers. They are outcasts, as the youngsters who are taking them out of the city, the dragon keepers. They are misfits, outcasts, and they too have had a very bad start to their lives, much as the dragons have. And just as the dragons are in some ways ill-tempered, not prone to following logic, not making good decisions, so are the dragon keepers. And they're all going to have to try to muddle through as best they can.
J'aime que mes systèmes de magie soient fortement ancrés dans la biologie et dans la physique. Et les créatures, donc les dragons que l'on a au début du désert des pluies, au début de la cité des anciens, disons que leur vie a mal commencé dû à des événements qu'on découvre dans les aventuriers de la mer. Ce ne sont pas des animaux gentils. Certains sentent une forme de devoir envers eux. Et notamment, on recrute des jeunes gens pour en fait les emmener loin de la ville. Et pour eux, c'est également la possibilité de s'échapper, pour ces jeunes gens. Parce que ce sont plus ou moins, ces gardiens des dragons, ce sont plus ou moins des parias, des gens qui vivent en marge. Et eux aussi, leur vie a mal démarré, comme les dragons. Les dragons ont mauvais caractère, ils ont du mal à suivre la logique, mais ces jeunes gens également, et en fait, ensemble, ils vont devoir plus ou moins essayer de se débrouiller pour s'en tirer du mieux possible.
Quand on voit ensuite la progression des personnages de cette série, quand on les voit s'enfoncer de plus en plus dans des zones peu cartographiées, on a l'impression, je me trompe peut-être, qu'on est dans le récit d'exploration. Et je me suis demandé si, bien sûr, transposé complètement, il n'y avait pas un petit rapport avec une sorte de Culberry Finn. Est-ce qu'il n'y avait pas un hommage au roman d'aventure américain? Est-ce que, quelque part, vous ne rendez pas hommage à vos grands prédécesseurs, vous qui êtes l'une des plus grandes auteurs de la fantasy contemporaine, Robin Hobb?
I think it would more be tales of lost cities, more like Edgar Rice Burroughs' tales, or perhaps H. Rider Haggard, or even Jules Verne with The Mysterious Island. I've always enjoyed stories of the discovery of mysterious places, the uncovering of secrets from the past. I think very often writers write the tales that are similar to the ones they enjoyed when they were growing up. So those are some of my favorite ingredients to a story. And so they went into the story that I was writing.
Je pense que ça se rapprochait peut-être un peu plus des récits des cités perdues, un peu dans la veine de Edgar Rice Burroughs à Cher Haggard et Verne avec L'île mystérieuse, bien sûr. Et j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup ces histoires où on découvre des endroits mystérieux, on découvre les secrets du passé, et c'était vraiment les histoires que j'aimais, et on raconte fréquemment, on dit que les auteurs ont tendance à écrire un petit peu dans la veine des histoires qui les ont marquées quand ils étaient enfants et quand ils étaient plus jeunes. Donc c'était mes ingrédients préférés quand je lisais quelque chose quand j'étais jeune, donc je suppose que d'une manière ou d'une autre ça a infusé dans ce que je fais maintenant.
Avant de passer à la suite et en fait la grande fin du cycle, je voulais ajouter un petit mot, puisqu'on n'a pas pu évidemment explorer comme je l'aurais souhaité les cités des anciens, que c'est une très jolie série, que j'ai rarement lu des ouvrages où on a l'impression que les personnages se perdent, je dirais physiquement, dans des marais, dans des lieux difficiles, etc., prennent des risques, et qu'en même temps, quelque part, ils se trouvent eux-mêmes. Je pense, Robin Hobb, à un des personnages qui est gay dans votre histoire, et qu'on va découvrir, évidemment, je ne vais pas révéler lequel. C'est pas nécessairement, c'est pas un sujet, hein. L'homosexualité, pas plus que l'hétérosexualité, n'est un sujet de roman, en tout cas chez les bons auteurs. Mais on n'avait encore jamais rencontré, me semble-t-il, de personnages gays dans vos romans. Et là, vous en avez mis un. Je suppose que c'est pas par hasard. C'est venu comment et pourquoi, Robin Hobb?
To me, it is. It is one aspect of a person, and often our gender is not the most important aspect. If I were to call up a stranger on the phone that I wish to do business with, I would not say, "Hello, this is Megan. I'm a heterosexual woman, and I would like to have Wi-Fi installed at my home." Because this aspect of me has no bearing on that part of my life, but it is part of our identity. And obviously, when I was attracted to the man who would become my husband, then it was a very important part of that attraction. I do think that. Just as I have a character earlier in the chronology of the books, we have a character who has Down syndromes. We have a character who walks with a permanent limp. We have all manner of characters. patience is not the most organized person in the world. But these are just aspects, and it does affect her life. All of those aspects, the fact that Burke walks with a limp affects what he does. The fact that there are characters who are homosexual, and so their romance is going to be with a person who accepts that. It's part of the character. When the character steps onto the stage, that is who that person is. And so it becomes a part of the story. So it's not like I don't make a checklist and say I must have at least one warrior who is a lesbian. I must have at least one person whose skin is a different color. I need to have a person who fits this body type. You can't write a story that way. The cast steps onto the stage, and they come as they are, and who they are affects the story. But it isn't about Burke having a limp, for example. You accept that. That's just part of who he is when he steps onto the stage.
Pour moi, cet aspect-là, c'est un aspect d'une personne. On parle souvent, par exemple, du genre, mais ce n'est pas du tout l'aspect le plus important d'une personne. C'est une part importante, mais ça n'est pas du tout la plus importante. Et, par exemple, imaginons, si jamais j'ai envie de faire des affaires ou d'être cliente avec quelqu'un, je ne prends pas mon téléphone pour dire « Bonjour, je m'appelle Megan, je suis une femme hétérosexuelle, voulez-vous venir m'installer le Wi-Fi, s'il vous plaît ?» Alors bien sûr, c'est un aspect de moi qui a eu de l'impact sur ma vie. C'était évidemment une grande part de l'identité, et c'était une grande part de la mienne quand j'ai été attiré pour la première fois par l'homme qui est devenu mon mari. Bien sûr, ça a joué un rôle important à ce moment-là. Mais plutôt dans la chronologie, on a également un personnage qui a le syndrome de Down, un personnage qui boite, etc. On a toutes sortes de caractères différents, de personnages différents. Patience, par exemple, n'est pas la personne la plus organisée du monde. Ce sont juste des aspects, et cela affecte ce que ces personnages font. Si l'on a un personnage homosexuel, bien sûr, cela va influer sa vie sentimentale, puisque cela va devoir se faire avec une personne qui, évidemment, partage cette attirance et l'accepte. Mais c'est juste une partie du personnage. Quand le personnage arrive sur scène, cela fait partie de qui il ou elle est, et cela devient une partie de l'histoire. Évidemment, j'écris pas avec une liste de cases à cocher en me disant alors il me faut une lesbienne, il me faut une personne dont la peau est d'une couleur différente, il me faut quelqu'un dont le type corporel soit un peu différent. On peut pas écrire une histoire de cette manière-là. Donc les personnages viennent tels qu'ils sont. Et cela affecte l'histoire. Quand Burrich vient sur la scène et qu'il boite, on l'accepte, ça fait partie de qui il est et cela fera partie de l'histoire.
On approche de, hélas déjà, je passerai des heures à rester comme un homme, à y aller poser des questions. On va encore un petit passage, voilà. Du fou et de l'assassin. Un roman plein de douceur, mais de la violence aussi, bien sûr, rassurez-vous. Le lecteur, on sait qu'il en a besoin. Plein de douceur, plein de tendresse. C'est aussi un roman un peu crépusculaire, puisque les personnages vieillissent, et que le vieillissement, évidemment, anticipe la mort, et que pour nous tous, c'est évidemment une question, plus ou moins à court terme. Et on va peut-être rentrer dans le livre. Il n'est pas entré dans ce jardin. Venez, déclara un des plus âgés. Et comme une meute de chiens que le fouet détourne du renard, les enfants reculèrent et se rassemblèrent autour du chef qui retournait vers le portail. Leur proie cherchait déjà des prises dans les pierres du mur chaud de soleil derrière le treillis. Il commença de grimper, puis un cri m'avertit qu'un de ses poursuivants avait surpris son mouvement du coin de l'œil. « Il est là !» cria une fille, et la meute rentra aussitôt dans le jardin au pas de course. Alors que le garçon en noir escaladait la muraille, les autres se baissèrent, et un instant plus tard, mottes de terre et cailloux fendaient l'air. Ils touchèrent le rosier, le treillis, le mur, et certains, avec des chocs sourds, le dos de leur victime. J'entendis ses grognements rauques de douleur, mais il ne lâcha pas prise et poursuivit son ascension. Le jeu s'était soudain transformé en une chasse cruelle. Agrippé à la muraille, il n'avait nul abri, et les poursuivants ramassaient déjà de nouveaux projectiles. J'eusse pu leur crier de cesser, mais je savais qu'alors je ne le sauverais pas. Je deviendrais une deuxième cible. Une pierre le frappa violemment à la tête et son front donna contre le mur. J'entendis le choc de la chair contre le minéral et je le vis s'arrêter à demi sonné, les doigts commençant à glisser. Mais il n'eut pas un cri. Avec un frisson, il se remit à grimper, plus vite cette fois. Son pied dérapa, se rattrapa, partit de nouveau et sa main approcha le sommet de l'enceinte. Comme si cet objectif atteint avait changé les règles du jeu, les autres enfants s'élancèrent. Il monta à cheval sur la muraille. Il resta le bref instant qu'il fallut pour que son regard croisât le mien, puis il bascula de l'autre côté. Le sang qui maculait son menton était d'un rouge choquant sur sa peau blême. Voilà, scène d'enfance, scène de violence. Finalement, ce n'est pas des tueurs, ce n'est pas l'assassin du roi, mais la violence est partout, y compris chez les jeunes êtres humains. Robin Hobb.
Oh, absolutely. Children have no concept of other creatures. Very young children have no concept of other creatures feeling pain or not wanting. You know, we've all, you know, pull the cat's tail because it's fascinating. Pinch your brother. According to current scientists, your brain does not fully develop its ability to comprehend consequences until you are probably between 22 and 24 years old. So it is one reason when I am horrified when a youngster in his teens does some terrible thing and we try them and punish them as if they were adults, when a simple MRI could tell us, this is not an adult. I think a lot of violence and cruelty that humans do is simply due to a lack of empathy, that once you can put yourself into the place of either the animal or the other person, cruelty becomes more difficult. When we teach our children that certain kinds of other human beings aren't really human beings because they worship a different god, or they have a different kind of hair, or they eat foods and the spicy food makes them smell different, or they have we are enabling cruelty and violence because we have immediately put them out of the category of that could be you. I don't want to get too dark on this, but yes, children are very capable of unthinking violence. They throw rocks at little animals. They do some pretty awful things with no concept of what they're doing. And it is up to adults to teach them, you know, to stop and say, oh, would you like someone to do that to you? And to try to awaken that awareness in them.
Tout à fait. Les enfants, notamment très jeunes, n'ont pas le concept que les autres êtres vivants peuvent ressentir la douleur et que c'est quelque chose qu'on ne veut pas infliger et que c'est quelque chose que même ne voudrait pas subir. On tire la queue des chats parce que c'est fascinant, elle bouge, on pince son frère, etc. Et en fait, il y a des travaux scientifiques récents qui montrent que le cerveau d'un être humain n'est pas entièrement développé, et notamment la capacité de comprendre et d'envisager et d'assimiler les conséquences des actes n'est pas pleinement développée avant l'âge de 22 ou 24 ans. Et c'est pour ça que c'est absolument horrible quand on voit des jeunes, des adolescents qui font des choses, qui commettent des actes absolument terribles, et on les fait passer en justice et on les juge comme des adultes, alors que la première IRM venue montrerait avec le cerveau que non, ce n'est pas un adulte. Et je pense qu'il y a beaucoup de violence et de cruauté dans l'humanité qui vient du manque d'empathie. Parce que si on se place à la place justement de quelqu'un d'autre, ben la cruauté et la violence devient évidemment mécaniquement beaucoup plus difficile. Et du coup, quand on enseigne aux enfants qu'il y a des sortes d'êtres humains qui finalement ne sont pas vraiment des êtres humains parce qu'ils adorent des dieux différents, parce qu'ils se coiffent différemment, parce qu'ils mangent différemment et donc les épices les font sentir différemment, tout ce qu'on fait, c'est autoriser et justifier cette violence. On n'enseigne pas justement ce qu'on devrait faire à ces enfants, on ne leur enseigne pas. Il ne faut pas faire ça parce que ça pourrait être toi à leur place. Je ne veux pas être trop sombre là-dessus, mais oui, je pense que les enfants sont capables de violences complètement inconsidérées et irréfléchies, de jeter des pierres à des animaux parce qu'ils n'ont pas le concept de cette empathie encore. Et justement, c'est le rôle des adultes d'essayer d'éveiller cette conscience-là en leur disant « Est-ce que tu aimerais être à sa place ? Est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça ?»
Un dernier petit extrait, et puis quelques mots avant de se quitter, parce qu'une autre conférence est prévue. Et puis vous retrouverez Robin Hobb, bien sûr, tout à l'heure, sous la bulle de livre, demain aussi, et vous la retrouverez dans son grand café solo. Encore une fois, vous verrez, ça sera encore un bonheur. La douleur dans mon cœur s'était soudain transformée en une douleur dans mon ventre. Elle s'ajoutait à celle de devoir garder mes rêves pour moi, sans jamais pouvoir ni les raconter, ni les coucher par écrit, surtout ceux qui me venaient désormais. Ils étaient à la fois effrayants et attirants, tentant et terrifiant, il me demandait de les rendre réels. Et à chaque jour de notre voyage, il devenait plus réel pour moi, comme si je m'approchais toujours davantage d'un avenir inéluctable que j'allais moi-même créer. Je fermais les yeux un instant, puis les ouvris sur la ville aux couleurs pastel qui s'étalait devant moi. Je m'obligeais à voir à quel point elle était jolie, je m'imaginais heureuse là-bas. Je trottinerais dans ses rues, je saluerais les gens de ma connaissance et ferais des courses pour Doualia. Et un jour, je m'échapperais. Non, je ne devais pas nourrir cette pensée ni un tel projet, pas encore. Ah, quelle ville charmante! J'aurais le merveilleux sentiment d'y être chez moi, quel bonheur! Je laisserais filer une pie de cette pensée. J'avais découvert que je pouvais infuser ce genre d'idées dans l'esprit de Doualia, même en dehors de sa présence. Ces pensées étaient pour moi une forme que je connaissais à présent comme celle de Van Aliar. Pour voir, j'instillais à ce dernier une goutte de ma félicité imaginaire et pendant un moment, je le sentis empli d'un sentiment chaleureux. Puis je le rejeta à ma pensée comme d'un revers de main. Il ne savait pas comment faire pour que ses pensées me parvinssent clairement. Cela arrivait parfois, mais je pense que c'était davantage le fruit du hasard qu'une capacité chez lui qui l'eût mise volontairement en œuvre. Je n'entendais pas directement ses pensées, mais je percevais sa méfiance envers moi, et derrière cette méfiance, sa blessure. Il avait vraiment cru que, par je ne sais quel miracle, je deviendrais son frère et que je l'aimerais comme personne ne l'avait jamais aimé. Il avait vu pour nous un chemin que je n'avais quant à moi jamais vu. Pendant une seconde, la pensée poignante qu'il se sentait peut-être aussi abandonné que moi me fit honte. Et puis je la rejetai violemment et la chassai de mon esprit. Non, il avait prêté la main à mon enlèvement, il avait participé à la destruction de ma maison, il avait piégé et aidé à tuer la seule personne qui se fût montrée amicale envers moi durant cet horrible voyage. Comment pouvait-il penser un seul instant qu'on allait l'aimer alors qu'il avait commis ses crimes, on ne dira pas qui. Voilà, on est dans le dernier volume où on va devoir quitter des personnages que nous avons tant aimés. Si vous ne les avez pas encore découverts, vous allez avoir beaucoup de chance, beaucoup de lectures pour les mois qui viennent. C'est une série fabuleuse, mais je voudrais terminer en vous donnant un petit conseil. C'est de lire un recueil de nouvelles. Robin Hobb écrit peu de nouvelles, mais elles sont toujours extrêmement brillantes, qu'il s'agisse de nouvelles de fantasy ou de nouvelles de science-fiction. J'ai eu l'immense bonheur de faire traduire et de publier, j'en remercie encore Robin Hobb, dans la revue Galaxy, revue de science-fiction que j'ai dirigée pendant une dizaine d'années avant de passer la main à quelqu'un d'autre. J'ai eu le plaisir de publier une nouvelle de science-fiction de Robin Hobb. Elle me touche toujours. À chaque fois, j'ai la même émotion. Vous voyez la force d'un écrivain, quand il vous amène en pensant un personnage encore à pleurer quasiment, c'est ça le talent, c'est ça le génie. Merci Robin Hobb, vous êtes un écrivain qu'on aime et qu'on aime lire. Bravo et merci à tous.